Bouchim Abaim, merci beaucoup pour la nouvelle possibilité qui m'est offerte par la famille Lévi et par votre présence pour venir, Bézat Hachem, développer avec vous l'un des sujets qui correspond en fait à notre époque. Nous savons que chaque sujet développé dans le judaïsme, il faut essayer de le voir, de l'appréhender sur trois niveaux différents. Et tant qu'il n'est pas développé sur ces trois niveaux, il est faible de l'un des deux ou des trois. Les trois niveaux en question sont le temps, l'espace et l'air. C'est-à-dire que quand je développe un sujet, je dois savoir comment est-ce qu'il s'adapte aux êtres humains, au temps et à l'espace. Et si ce sujet n'est pas développé sur ces trois domaines, qu'on appelle en hébreu « shlosha regalim », c'est ça les trois pieds, ce ne sont pas trois fêtes, c'est un trépied par lequel l'infini béni soit-il réside, descend, se dévoile dans notre monde, et ces trois pieds en réalité correspondent au temps, à l'espace et aux êtres humains que nous sommes. Même si je développe un sujet qui apparemment n'a aucun rapport avec l'espace. Par exemple, le Shabbat. Pour vous, le Shabbat est un temps. Ce n'est pas qu'un temps, c'est aussi un espace et c'est aussi une valeur humaine. Et tant que je ne connais pas le secret de ces trois niveaux, que les kabbalistes appellent Ashan, qui sont les initiales de Olam, notion d'espace, Shana, notion de temps, et Nefesh, notion d'être vivant. Bien, tant que je n'ai pas ce degré, il y a un problème, il y a en fait un boitage. Étant donné que nous sommes dans le mois de Tammuz, il faut savoir aussi que chaque mois dans l'année, je peux le développer sur ces trois niveaux. Et aujourd'hui, nous allons le développer au niveau déjà des membres du corps humain. C'est-à-dire que le temps, lui aussi, à un membre qui correspond à chaque mois de l'année. Le membre qui correspond au mois de Tammuz dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est l'œil. Autrement dit, je dois connaître le secret des yeux, de l'œil, de ce que représente l'œil pour comprendre et vivre le mois en question. Cette information nous vient d'une vision profonde de la vie. Et l'histoire d'Israël, qui est en réalité l'histoire de Dieu, à travers les êtres humains que nous sommes, et c'est pour ça que le Rav Kook appelait l'histoire Hesteria et pas Historia. Hesteria, c'est-à-dire Dieu caché dans l'histoire des hommes. Donc nous sommes les acteurs de l'histoire divine. Nous jouons un rôle, et en réalité, le seul but dans tout ce jeu, ce grand jeu, c'est le dévoilement de l'infini dans ce monde. Eh bien, le fait que les sages associent le mois de Tammuz à l'œil, et que nous savons par ailleurs que l'œil représente la sagesse, c'est comme le miroir d'une grande sagesse, les oreilles c'est le discernement, le nez c'est l'accompagnement, la bouche, c'est le dévoilement, le remerciement. Et nous pouvons en réalité descendre tout au long du corps et savoir la correspondance avec chacune des tribus. D'Israël aussi, puisque Réhouven ne veut pas dire Ruben, ça c'est en français, mais Réhouven veut dire regardez qu'il y a ici un enfant. Réhouven. Et donc le Réhouven, c'est les yeux. Donc il y a aussi une tribu qui correspond. Et le fait de savoir gérer la vue, donc le sens de la vue et la vision durant le mois de Tammuz, c'est les choses la plus essentielles. Donc nous devons nous soucier de développer notre regard, notre vision des choses durant ce mois. Pas seulement au niveau donc de la vision physiologique, j'allais dire, mais aussi de ce que cela représente, c'est-à-dire la sagesse. Donc il faut développer en nous une vision qui soit fidèle à la vision divine. Et ça, c'est la chose la plus difficile. Nous avons un verset qui nous dit « Ki'ain be'ain yir'u b'shuv Hashem Sion ». Un œil pour un œil, ils verront, lorsque je reviendrai à Sion. Les sages nous disent ce que c'est que ce verset, un œil pour un œil. Eh bien, lorsque toi, l'homme, tu pourras régler ton regard humain au regard divin, donc un œil humain par rapport à un œil divin, entre guillemets, eh bien, tu pourras voir comment je reviens à Sion, comment j'évolue dans la rédemption du monde. Il nous est donc demandé d'approfondir notre façon de voir la vie pour élever notre vision à une vision qui est beaucoup plus profonde, beaucoup plus lointaine, beaucoup plus globale, englobante. Et tout le problème de ce monde, c'est que nous voyons des choses étriquées, fermées, cloisonnées. Et donc, lorsque nous élargissons notre champ de vision, on commence à voir. La Torah, quand elle veut dire que quelqu'un est en train de voir quelque chose, elle ne dit pas « il a vu ». Elle dit « vaïssa et aïnav vaïav ». Il a d'abord élevé ses yeux et il a vu. Autrement dit, il n'a pas vu ce que tout le monde voit. Il est sorti un petit peu du premier degré de vision pour voir réellement ce qui est à voir. Et sinon, on tombe dans le monde que j'appelle scientifique.
Tu veux dire, il y a la vue et la perception.
Il y a la vue et il y a...
C'est ça, une interprétation.
Je ne parle pas d'interprétation, je parle encore d'autre chose. Pas seulement d'interpréter ce que je vois, mais de pouvoir voir ce que la plupart des gens ne sont pas capables de voir. D'accord ?
Et pourquoi ?
Parce qu'il n'y a pas un travail, leur manque ce qu'on appelle le da'at. Le da'at, c'est une connexion, c'est une étude qui procure à l'homme qui étudie une nouvelle clé que la plupart des gens n'ont pas. Et il faut l'acheter, cette clé. Da'at kanita, il faut acheter. Mahasarta, tu ne manqueras rien. Et c'est pour ça que la prière la plus importante dans la Amida, c'est Ata Ronen le Adam Da'at. Quand vous faites cette bénédiction, il faut mettre le paquet au niveau de votre concentration, parce que le Da'at est une clé qui fait le lien, comme une matrice qui fait le lien entre les mondes des valeurs et leur réalisation terrestre. Et c'est ça le Da'at.
C'est plus important que Chokhma et Bina.
Chokhma et Bina, en réalité, ensemble, vont donner ce degré qui s'appelle Da'at. Mais sans le Da'at, la Chokhma peut rester séparée de la Bina. Exactement. C'est la synthèse de la Chokhma qui, l'antithèse, est la Bina. Donc il faut une synthèse. D'accord ? Donc, il y a ici un phénomène qui est triangulaire, comme toutes les séphirotes d'ailleurs. C'est toujours un triangle. Nous construisons un triangle pour dévoiler le troisième élément qui était déjà, mais qui attendait qu'on le révèle. Le Da'at existe avant la Chokhma et avant la Bina. Mais il attend qu'on le révèle. C'est tout. De la même manière que Jacob existe avant Abraham et Isaac. Mais il attend qu'on le dévoile. Et c'est seulement lorsque Abraham et Isaac apparaissent dans le monde qu'ils peuvent faire venir le troisième qui existait déjà, mais qui attendait qu'on le révèle. Donc il y a des éléments dans notre vie qui attendent tout simplement, patiemment, qu'on les révèle. Et où est-ce qu'on les place, ces éléments? Au milieu, toujours au centre. Et donc il y a toujours une extrême droite et une extrême gauche qui font apparaître quelque chose qui est de l'ordre du milieu, qui a égale distance de tous les autres.
Alors, il était potentiellement...
Exactement. Existant. Donc il y a potentiel et manifesté. Voilà. Donc il faut manifester ce qui est potentiel. Et d'ailleurs, vous n'avez aucun libre arbitre dans votre vie, si ce n'est que celui-là. Vous n'avez pas le libre arbitre d'être, on ne vous a rien demandé, vous êtes là, vous êtes né. Vous avez en réalité, tout est déjà vendu d'avance. Vous êtes foutu. Alors quel est votre seul choix dans ce monde? De révéler ce que vous êtes ou de l'étouffer. C'est tout. C'est le seul choix que nous ayons. De révéler ton potentiel ou de l'étouffer, de le scléroser, de le fermer.
Je veux dire le matérialiser, c'est ça?
Exactement. Le cristalliser, si ça te convient, matérialiser, alors ça va. C'est le seul degré que nous ayons de liberté, en fait. Parce que nous sommes nés avec ce potentiel, et on appelle ça la ségoula, et chacun de nous, selon ses efforts, et l'acquisition de cette fameuse sphère dont je vous ai parlé tout à l'heure, le Darat, qui va faire le lien entre ce potentiel et qui va le réaliser dans ce monde. D'accord? Et donc, dans le potentiel du temps, puisque l'une des créations du monde, c'est le temps n'existait pas avant la création. Dans un degré divin, on ne peut pas parler de temps. Parce que si tu parles du temps chez Dieu, c'est qu'il manque quelque chose. Il est dans un certain manque. Il y a pour lui hier, il y a pour lui aujourd'hui, il y a pour lui demain. Donc il est au même niveau que nous. Pas du tout. Chez Dieu, le temps n'existe pas. C'est une notion qui nous est difficile à nous, les hommes, les êtres humains, à comprendre. Mais la notion de temps n'existe pas. Et étant donné qu'elle n'existe pas, tout est au même niveau. Le passé, le présent et le futur. Et donc, au niveau du choix du temps qui appartient aux hommes, lorsque Dieu a créé le monde, eh bien, il a créé un temps qui correspond à sa capacité infinie à descendre et à se réaliser, à se manifester dans le monde fini. Et par la suite, on va appeler ce mois, ce temps, Tammuz. Le mois de Tammuz, si vous demandez à n'importe qui dans la rue, quelle est la qualité de ce mois de Tammuz, qu'est-ce qui s'est passé le mois de Tammuz, la plupart du temps, nous avons un souvenir négatif. On est d'accord. Le mois de Tammuz pour vous et le mois de Av pour la plupart d'entre nous, c'est destruction. Pourquoi ? Tout simplement parce que le genre humain a une certaine déformation intérieure où il est plus en tant que victime. Il adore cette place de victime. Donc les gens préfèrent être dans une zone de confort qui s'appelle être victime, parce que quand je suis dans le degré de victime, on me plaint, on s'occupe de moi, j'ai l'impression qu'on m'aime plus, mais en réalité c'est faux. Et donc on se place tous dans ça. Et voilà, la preuve en est, c'est que dès que je vous dis Tammuz, vous sentez la victime, destruction, on nous a détruit les temples et tout ça. Et même chez les gens qui étudient. Alors que le mois de Tammuz à la source, c'est tout autre chose. C'est le choix divin de nous donner la Torah. Puisque la tentative divine, entre guillemets, de faire descendre les premières tables de la loi, c'était quel mois ? Tammuz. C'était pas destruction, c'était pas tout ce que vous pensez. Oui, effectivement, il y a eu destruction dès cette première tentative. Et il faut comprendre pourquoi. C'est-à-dire que le mois de Tammuz au départ, il est censé traduire la sagesse divine pour la faire descendre dans un monde dans lequel nous vivons. Et ce qu'on appelle le 17 Tammuz, Matan Haluchot HaRishoni, le don des premières tables. Et qu'est-ce que c'était censé être ces premières tables? Eh bien, c'est tout simplement graver, entre guillemets, dans la matière, les valeurs de l'infini.
Quand tu dis que le temps n'existe pas pour Dieu, c'est pour ça que il ne faut pas prendre la chronologie dans la Torah au sérieux. Il y a une moukdam de...
C'est pas qu'on ne la prend pas au sérieux. On peut prendre au sérieux, mais on ne doit pas diviniser le temps.
Voilà.
Sinon, ça devient Monsieur Chronos.
C'est
un des dieux.
C'est pour ça.
Chronos, c'est un dieu grec, c'est-à-dire le dieu du temps.
Ouais.
Et nous, on ne croit pas au dieu du temps. On croit dans l'infini qui dirige et qui domine le temps. Et cette domination du temps nous donne à nous, les hommes, et surtout lorsqu'on fait partie du peuple d'Israël, la possibilité de sanctifier, de transcender le temps. Et de transformer en fait chaque temps en une fête. Il faut que vous fassiez de chaque jour de votre vie une fête. Si aujourd'hui c'est passé comme ça, par V, c'est dommage. Il y a quelque chose qui est un petit peu mort. Ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande, c'est que chaque élément que tu fais dans ta vie, chaque situation, transforme-la en quelque chose d'immense. C'est la différence entre ceux qui savent raconter des histoires et les autres. Vous croyez que ceux qui savent raconter des histoires ont quelque chose de plus? Oui, une seule. Une seule chose de plus, c'est qu'ils savent prendre n'importe quelle petite situation de la vie et vous la rendre magnifique. T'as l'impression qu'il vit toute la journée dans un mystère de vie exceptionnel. Alors qu'en réalité, il vit comme toi. Mais seulement, il a une autre vision des choses. Et il sait transcender, transformer, raconter comment il y avait une magnificence dans ce petit instant, dans ce petit moment. Et c'est ça qui nous manque le plus. Je reviens, la valeur de Dieu gravée sur les tables, c'est pas seulement que Dieu a gravé ses valeurs, charut en hébreu, charita, gravure, c'est qu'il nous a donné charut. C'est qu'à ce moment-là, on est devenu libre. On était censé être libre. Et c'est pour ça que la Gemara nous dit, ne lis pas charut à la luchot, que Dieu a gravé ses intentions dans la matière, certes, mais cette gravure, elle a engendré quelque chose de beaucoup plus grand. C'est qu'il t'a donné la liberté. C'est-à-dire que tu es en train de servir, à partir de ce moment-là, les valeurs de l'infini. Donc servir Dieu, c'est pas servir encore un des éléments, le temps, une poupée, une statue, une sculpture, un idéal, non. Tu sers l'infini. Et en tant que serviteur de l'infini, tu sers en réalité la liberté absolue. Et c'est ça le service de Dieu. Et les gens qui ne comprennent pas ce que c'est servir Dieu, pensent que nous sommes prisonniers. Le pauvre, il ne peut rien faire Shabbat. Le pauvre, il ne peut pas manger tout ce qu'il a envie. C'est toi qui es pauvre. Parce que tu es complètement enfermé dans un système humain qui t'a donné l'impression d'être libre. Mais en réalité, tu n'es pas libre. Tu es complètement esclave de tous ces degrés.
La liberté, c'est choisir de faire.
Okay. Alors ça, c'est le secret, donc, de réaliser la valeur intrinsèque qui m'appartient. Puisque je suis né d'une maman qui fait partie du peuple d'Israël, donc j'ai une ségoula, j'ai une capacité en moi, et le choix que j'ai dans ma vie, c'est de vivre selon cette capacité, ou bien de l'atrophier,
l'étouffer.
D'accord ? Donc, le temps, par excellence, par définition, le plus approprié à compléter tous les manques de notre vie, et chacun de nous, si je vous demande une seule expression de ce que vous voulez dans votre vie, vous allez me faire ce sentiment de se sentir complètement plein. Et chacun de nous, si vous réfléchissez à combien vous mesurez vos respirations, maintenant, au moment où je vous parle, c'est même pas 20% de votre capacité à respirer. Dès que je vous dis commencez à respirer normalement, vous commencez à avoir la tête qui tourne. Parce que vous commencez réellement à respirer. Sinon, c'est des petits trucs qui n'ont aucun rapport avec la respiration. Or, quand tu ne respires pas normalement, c'est parce que tu es angoissé et pressé et oppressé. Et donc, tu as l'impression que c'est des petits mouvements de panique, de va-et-vient, qui te font survivre, mais ne pas vivre. Et moralité, comme on ne sait pas respirer, eh bien, notre neshama ne rentre pas complètement dans notre être. Ce qui fait que si je devais vous faire un dessin maintenant, nous avons une âme qui est au-dessus de nous, qui n'arrive pas à pénétrer notre corps. Donc je marche à côté de mes pompes. C'est vrai ? Pourquoi cette neshama ne peut pas rentrer ? Parce que tu n'as pas de neshima. Neshima en hébreu, respiration, neshama âme. C'est la même racine. D'ailleurs, tous les gens qui ne savent pas faire du sport, c'est à cause d'une seule chose. Ils ne savent pas respirer. C'est tout. Quel? Pas que. Dans tous les domaines, tout est question de respiration. C'est tout. Et nous devons comprendre que cette respiration-là, elle demande en fait, elle exige en fait des éléments qui nous dépassent, qui nous transcendent. C'est-à-dire qu'elle invite dans sa source la sainteté la plus élevée à descendre dans notre vie. Le problème, c'est que lorsque cette respiration, cette aspiration rencontre les valeurs de la matière, du corps. Et là, il y a un problème. Il y a un choc entre la neshama qui est en dehors du système de la norme et le corps qui est la norme. Je vais vous le dire avec d'autres mots un petit peu plus simples. Lorsque vous avez 100 poussins qui naissent jaunes, il y a un seul qui naît noir, tous les jaunes vont tuer le noir. Dans la nature, c'est comme ça. Peut-être vous appelez ça Calimero, vous appelez ça ce que vous voulez. Mais c'est dans la nature. Pourquoi? Parce que la nature d'en bas ne supporte pas le hors commun, qui est comme un intrus, qui est comme un élément étranger. Bien fait. Alors, dans l'hébreu d'aujourd'hui, je vais vous apprendre un mot, ça s'appelle achidout. Qu'est-ce que c'est achidout? Pas l'unité, achidout. Achidout. Achidout, c'est l'uniformité. C'est-à-dire que le monde dans lequel nous sommes adore l'uniformité. Plus tu es dans l'uniformité, plus tu es accepté. Dès que tu sors un petit peu du lot, c'est fini. Tu es l'étranger, tout est focalisé sur toi pour te repousser. C'est comme ça que ça marche. Alors que, dans le monde de l'âme, c'est exactement l'inverse. Il y a tout sauf uniformité. Il y a justement la liberté et l'expression de chacun. Alors imaginez-vous, quand cet élément qui vient avec son expression à lui descend dans un monde d'uniformité, eh bien il y a un choc. C'est exactement le choc qu'Israël opère aux yeux des nations. Nous sommes en réalité le hors commun qui est tombé dans un monde d'uniformité. Et comme on dépasse l'uniformité et qu'on n'est pas dans l'uniformité, eh bien on nous repousse naturellement. Et donc tous les éléments qui descendent du ciel, par définition, quand je dis descendent du ciel, c'est-à-dire descendent d'un domaine qui est hors du commun, sont repoussés. Donc, les temples de Jérusalem ont toujours été détruits. Ils ne peuvent pas, par définition, rester dans ce monde. Mais tout simplement parce que le monde les rejette. Parce que la nature qui est uniforme, elle rejette ce qui est hors du commun. Donc ça ne marche pas. Donc il n'y a jamais eu un temple jusqu'à aujourd'hui qui a tenu la route. Il va tenir 400 ans, il va tenir 420 ans, il va tenir les moments dans le Midbar, mais c'est impossible. Alors, comment on va faire pour construire un troisième temple? Enfin, tout simplement parce que le monde va monter à un autre niveau. Mais tant que le monde n'est pas à ce niveau-là, c'est impossible d'avoir quelque chose qui est hors du commun parce qu'il sera toujours repoussé. C'est un corps étranger qu'on repousse. Donc il y a ici quelque chose d'énorme, c'est un décalage entre la Neshama qui est exceptionnelle et le monde qui est dans l'uniformité. Et donc dès que quelque chose, une valeur descend d'en haut, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle se casse. C'est exactement ce qui s'est passé dans les tables. Pourquoi les tables se sont brisées? Ben, tout simplement, pas parce que Moshe les a jetées, parce que tout simplement, il y a un décalage entre l'absolu et ce qu'il rencontre lorsqu'il descend sur terre.
Le peuple, c'est ça.
C'est ça. Le peuple, qui représente en fait l'humanité tout entière, on va dire, le monde d'en bas n'est pas encore mûr, n'est pas encore un ustensile capable de recevoir cette valeur. Alors je vous pose une question très simple. Nous sommes dans ce mois de Tammuz, et Dieu, qui connaît le temps, et qui connaît les événements qui vont se passer dans le futur, et il a un prophète juste à côté de lui, il s'appelle Moshe. Et Moshe se trouve dans une valeur supérieure, on appelle ça le ciel, peu importe maintenant, et il est avec Dieu, ça fait déjà 40 jours, temporellement, humainement. En haut, il n'y a pas de temps, vous comprenez? Alors, si vous demandez à Moshe combien de temps tu es resté en haut, il ne sait pas, c'est une seconde, c'est rien. C'est comme votre rêve, ça a duré réellement une seconde, alors que vous pouvez me raconter des histoires qui ont duré des années. Aujourd'hui, c'est mesuré, physiquement, scientifiquement. Donc Moshe se trouve dans un monde, en tout cas en bas, il s'est passé déjà 40 jours. Et donc lorsque Moshe est là-bas, et Akadosh Baruch Hu, l'infini béni soit-il, veut lui donner maintenant, parce que c'est le but du monde, que le créateur du monde donne au monde ses pensées, son but, ce pourquoi le monde a été créé. Comprenez bien que le monde n'est pas juste un ensemble d'êtres vivants qui tournent, qui tournent, qui tournent, et le temps passe, et on meurt, et on vit, on travaille, et on mange, et on va dormir, et on a des enfants. C'est pas ça la vie, il y a un but. Mais si je ne connais pas ce but, eh bien, rien n'a de sens dans ce monde. Et c'est justement la maladie mentale des philosophes. C'est qu'ils n'ont aucun but dans ce monde. C'est pour ça que quand vous lisez des livres qui ne sont pas reliés au Kodesh, généralement vous finissez par être pessimiste. Parce qu'il n'y a pas de sens à la vie, il n'y a rien. Et tout ce qui vous arrive, il n'y a aucun sens. Il n'y a aucun sens à la vie, il n'y a aucun sens à la mort, puisqu'il y a à la fin la mort, donc qu'est-ce que c'est que la vie? Et ce sont plein de questions. Et lui, il est tombé, il s'est cassé le pied, l'autre, il s'est fait. Il n'y a pas de sens. Et à Kadosh Baruch Hu, l'infini béni soit-il, vient et nous dit à mon cher Rabbeinu, je vais donner le sens de la vie. Je vais vous donner, moi le Créateur, au monde, à travers le peuple d'Israël, le sens de la vie. Maintenant, Dieu sait que, en bas, dans le monde des hommes, il se passe quelque chose d'autre. Il y a un veau d'or. On est en train de faire un veau d'or. Et les Chachamim nous disent, quand est-ce que le peuple a fait le veau d'or? À la seconde, si on peut dire la seconde, où Dieu fait passer les tables à Moïse. Alors vous avez deux caméras. La caméra en haut, Dieu donne les tables à Moshe. Et les sages vont tellement profondément dans l'explication qu'il faut bien entendu développer, qu'ils nous disent que la largeur des tables est de 6 poignées. 2, 4, 6. Quelque chose de comme ça. Ça, c'est la largeur de la table. Un cube. Et regardez jusqu'où ça va. La Gemara nous dit, dans le traité de Shabbat, que Dieu tient 2 poignées de ces tables. Imaginez-vous que c'est ça. Dieu, sa main tient 2 poignées. La main de Moïse tient 2 poignées, et il y a entre les deux, 2 poignées de vide. Qu'est-ce que c'est que ce charabia? C'est-à-dire que c'est une résolution énorme auquel descendent les chachamim. Ils nous disent qu'en réalité, il y a 2, 2, 2. Vous comprenez? 2 entre les mains de Dieu, 2 entre les mains de Moïse, et 2 au milieu. Et la Torah, la Gemara, va nous raconter quelque chose d'exceptionnel. Elle va nous dire, au moment où il y a la faute du veau d'or en bas, Dieu qui sait qu'il y a la faute du veau d'or en bas, dit à Moshe, descends, parce que ton peuple est en train de partir en cacahuète. Et là, que se passe-t-il en haut? Vous, qu'est-ce que vous auriez fait? Vous auriez lâché les tables et descendre pour régler le problème. Non, Moshe, il se bat avec Dieu. Il y a un combat, qui va gagner à prendre les tables? Et la Gemara nous dit que Moshe tire les tables très 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 fort de son côté, que Dieu tire les tables très 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 fort de son côté, et c'est Moshe qui gagne. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Vous comprenez bien que le but, c'est de donner ces tables. Donc, Dieu laisse Moshe gagner parce que c'est le but même que ces tables descendent. Mais le problème, il est que, en bas, les hommes ne sont pas capables. Alors pourquoi tu fais descendre Moshe avec ses tables? Garde les tables en haut. Lorsque le peuple sera normal, tu reviendras les chercher. Ou mieux encore, pourquoi Moshe doit être en haut pour recevoir les tables et il ne les reçoit pas en bas avec le peuple? Réponse. Encore une fois, deux niveaux. Le niveau de l'absolu, où Moshe se trouve parce qu'il est à la hauteur de recevoir. D'ailleurs, c'est le seul qui a reçu la Torah. Personne n'a reçu la Torah, vous comprenez ça. Moshe qui bel Torah Missinaï. C'est fini. Personne d'autre. Et il n'a pas reçu la Torah de Dieu. Il a reçu une Torah. qu'il était capable, lui, de recevoir. C'est pas l'infini. Et où est-ce que je le sais, ça? Mais tout simplement parce qu'en hébreu, il y a des nuances. Comment on appelle la Torah tout entière? Ha Torah. Donc, on aurait dû dire, Moshe Kibel est Ha Torah. C'est pas ce qui est dit. Moshe Kibel, Torah. Il a reçu une Torah, un éclairage. Pourquoi? Parce que tout Moshe qu'il est, c'est un homme. Et l'homme étant limité dans sa pensée, il ne peut pas recevoir l'infini. Alors que Dieu, lui, Baruch Atah Hashem Noten, Ha Torah. Dieu nous donne Ha Torah. Mais l'homme reçoit Torah. Et encore Moshe. Alors qu'est-ce que c'est nous? Vous comprenez la différence? Donc il y a le donneur qui lui donne l'absolu, et il y a celui qui reçoit, qui est au niveau de sa capacité à recevoir. Un petit peu comme ce qui se passe ici maintenant. Je donne mon cours, et chacun de vous va le recevoir selon sa capacité à le recevoir. Vous allez sortir tous de ce cours, vous allez raconter ce cours, ça sera 40 cours différents, 50 cours différents. On dirait que vous n'étiez pas au même cours. Pourquoi? Parce que vous avez une façon d'appréhender qui correspond à votre nature, à votre vécu, à tout ce que vous avez eu dans votre vie. Et vous allez retenir des choses qui touchent aujourd'hui à ce que tu es. Comme si je faisais rentrer maintenant un petit garçon de 2 ans ici, et un jour quand il sera grand, il va dire à sa maman, un jour tu m'as amené, alors pour lui il n'y a ni cours, ni rien, dans une maison où j'ai vu une table ronde blanche avec un verre d'eau au milieu. C'est tout ce qu'il se rappellera. C'est à son niveau de compréhension. Il ne m'aura jamais vu, il se rappelle de personne d'ici, mais il se rappelle qu'il y avait une table blanche et il va dire, maman, ramène-moi dans la maison de la table ronde blanche avec le verre au milieu. La maman va le regarder en se disant, mais de quoi tu parles? Bien, c'est la même chose dans chacun de nous. Nous appréhendons ce que nous sommes capables à notre niveau de réception de voix. Écoutez un cours audio ou vidéo, vous allez voir que vous l'écoutez 40 fois et chaque fois vous entendez quelque chose que vous n'avez pas entendu d'avant. Incroyable. Lisez un livre, quand vous êtes fatigué, vous allez vous endormir toujours à la même phrase. Tu vas ouvrir les yeux, tu vas reprendre la phrase, jusqu'au moment où tu te dis, non, c'est fini pour ce soir, je suis mort, c'est fini. Mais c'est la même chose. Il y a des degrés qu'on est capable de recevoir, et donc tout est fonction de la réception et non pas de l'expérience elle-même. Ce qui fait que je repose ma question. Pourquoi Dieu donne la Torah, sachant très bien qu'en bas, dans ce monde, il n'y a pas la capacité à l'entendre, à la recevoir? La preuve, c'est que ça va se casser, ça va se briser. Réponse, parce que c'est ça l'éducation. C'est ça l'éducation. L'éducation, c'est pas de descendre au niveau du bas, mais de tirer le bas vers le haut. Malheureusement, c'est ce qu'on ne fait plus au niveau des nations. Toutes les nations du monde aujourd'hui vivent par le nivellement du bas. On n'élève plus. Donc le langage va devenir un langage, si ça continue comme ça dans 30, 40 ans, ça sera... C'est ça, en réalité. Moi, mercubia, tu portes... C'est ça. C'est tout doucement, tout doucement, tout doucement, ça va se dégrader à ça. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on nivelle par le bas. Et c'est ce qu'on préfère. Dans l'art, dans tous les domaines, même dans la Torah. Parce que vous pouvez écouter des cours qui nivellent par le bas. Et vous avez l'impression que vous sortez avec quelque chose dans votre poche parce qu'on vous a donné un petit truc. Il faut faire très attention. De savoir choisir ton rave. Qu'est-ce que ça veut dire choisir ton rave? Assez les rave, c'est une vie entière à choisir un rave. C'est pas qu'à choisir un rave qui était à côté de toi, qui est capable de te donner d'autres petits trucs machin entre mincha et arbitre pour te calmer. Non. Un rave, c'est une éducation. C'est une vision, c'est un visionnaire, c'est quelqu'un qui va te donner une façon de vivre. Pas à l'instant. Pas qu'il va venir te raconter des blagues pour te faire rire, t'es content, tu crois que t'es sorti d'un spectacle. Il faut que ça te construise. Si ça ne te construit pas, c'est n'importe quoi. Tu es venu pour entendre des informations. Et ça, tu n'as pas besoin de ça. Ce que je veux dire de tout ça, c'est que c'est ça l'éducation. C'est qu'Akadosh Baruch Hu va donner la grande valeur, la grande Torah, sachant d'avance qu'elle va se casser. C'est pas grave. J'ai planté une graine. Cette graine, elle va faire ce qu'elle doit faire. Elle va se développer. Alors au début, j'ai brisé. Mais oui, mais c'est comme ça. Quand le Rav Zuckerman, Shlita, nous envoie en France pour donner des séminaires pour la Alia, le vendredi soir, le premier cours, tous les gens sortent du cours brisés. Ils vont et ils ne dorment pas de la nuit, ils pleurent tous. Et un jour, j'ai posé la question au Rav, et il m'a dit que c'est voulu, qu'il veut casser tout leur système de réflexion jusqu'à aujourd'hui. C'était tellement dans un monde qui n'a aucun sens réellement au niveau de la Torah, qu'il est obligé de casser toutes ces données de base pour le lendemain matin reconstruire tout à zéro. C'est pas évident. Et en réalité, ça passe par une brisure. Donc, la Torah, par définition, étant donné qu'elle est hors nature, quand elle descend dans un monde d'uniformité, elle se casse tout le temps. Le Aleph, quand il descend dans ce monde, il devient un bête. Automatiquement. C'est-à-dire qu'il y a déjà une explosion. Comme une lumière qui traverse l'atmosphère et qui, par un prisme, s'éclate en mille milliards de couleurs. C'est exactement pareil. Et donc tout ce qui est de l'ordre de l'unité divine, quand il descend dans ce monde, ça se brise. Et le minimum du pluriel, c'est le 2. Et c'est pour ça que nous avons deux tables. Pourquoi il n'y a pas une seule table? Pourquoi Dieu donne une Torah? Pourquoi on reçoit déjà deux? Pourquoi dans la parole divine, il y a une pensée et en bas, il y a déjà la Torah écrite, la Torah orale, la Mishnah, la Gemara? On est toujours dans le que. Dieu parle un et moi j'entends deux. Je ne peux pas comprendre le un. Et donc, il y a une difficulté. Mais ça fait partie de la vie. Sache que lorsque la Torah descend dans ce monde, il y a une brisure. Comment s'appelle la montagne sur laquelle la Torah est donnée? La montagne de la cassure, de la destruction. Sinaï, Chorev. On l'appelle Chorev. Chorev, Chorban. Chorban veut dire destruction. Donc, dès que Dieu descend sur terre, il y a destruction. Pourquoi? Parce que la seule manière de te construire, c'est d'être capable de détruire ce que tu étais jusqu'à maintenant. Et si tu as peur de bouger, tu ne pourras pas monter de niveau. Tu ne pourras pas en réalité évoluer. Parce que tu dors sur tes acquis. Si tu n'es pas capable de te casser, tu ne peux pas te remonter. Je ne sais pas si je vous l'ai dit dans ce cours. La dernière fois, au niveau des voyages. D'accord ? Quand on démontait le Mishkan, c'était la chose la plus importante. Est-ce que tu es capable de démonter ton Mishkan ? Si tu n'es pas capable de démonter ton Mishkan, quand est-ce qu'on le démontait ? Juste avant de commencer à prendre la roue. Eh bien, tu ne pourras pas partir. Tu ne pourras pas sortir. Tu ne pourras pas te construire. Et ça, c'est tout le secret. Mais nous, les hommes, étant donné qu'en haut, le temps n'existe pas, en bas, on ne supporte pas que ça prenne trop de temps. Donc nous sommes dans l'impatience. Et c'est l'une des fautes essentielles de l'homme.
Très intéressant ça. Dans la politique aujourd'hui, le statu quo, ce que tu dis, toi, il faut définir le statu quo. Pour pouvoir faire quelque chose de l'autre.
Sinon, ça ne marche pas.
Sinon, ça marche.
D'accord. Alors.
C'est ma conclusion de ce que tu as dit.
C'est gentil. Ça veut dire qu'en réalité, nous sommes dans une situation qui est obligatoire et qui est comme ça. C'est ça, en réalité, le manque de patience qui se trouve chez l'homme. Quand il y a ce manque de patience, qu'est-ce que nous avons tendance à faire immédiatement? à raccourcir, à faire des circuits qui sont plus courts que les autres. Ça s'appelle en français des courts-circuits. Je rigole pas. Qu'est-ce que c'est un court-circuit en électricité? Qu'est-ce que c'est un court-circuit en électricité? C'est tout simplement le plus qui va au moins directement. Il n'y a pas de résistance. Est-ce que le moins reçoit la lumière? Oui. Mais il reçoit tellement de lumière qu'il n'est pas capable de recevoir, c'est le grand noir. Et c'est la même chose. À chaque fois que nous recevons, que nous voulons sauter les étapes, qu'est-ce qui se passe? On doit les rembourser. Toutes les étapes que vous avez sautées dans votre vie, vous allez devoir les rembourser. Si vous n'avez pas vécu votre enfance, vous allez être enfant à 50 ans. Si vous n'avez pas vécu votre adolescence, vous allez faire une crise de la cinquantaine. Si vous n'avez... Tout comme ça. On ne peut rien sauter. Parce que notre monde exige l'évolution des choses par étape, par escalier. C'est comme ça que le monde existe. Malheureusement, quand on nous presse à recevoir de lumière trop vite, alors que nous ne sommes pas capables de le faire et qu'on veut monter très haut, eh bien on est dans le court-circuit, c'est-à-dire une grande lumière qui nous brûle. Et c'est ce qu'on appelle en hébreu le archavisme. Archavisme, c'est maintenant. Shalom, archav. Mashiach, archav. Tout de suite. C'est-à-dire que tu ne sais pas voir l'évolution des choses. Donc tu deviens infantile, où le petit garçon, la petite fille, est assise. Je veux maintenant. Il est minuit. C'est fermé. Je m'en fous, tu vas ouvrir le magasin. Je veux maintenant. Vous comprenez ça? Mais c'est la même chose. On est pareil à un autre niveau. Alors, si ce n'est pas maintenant, tout de suite, immédiatement, tu n'acceptes pas. Moralité, qu'est-ce que tu vas faire? J'évolue. Écoutez bien. Je vais prendre l'infinité de Dieu et qu'est-ce que je vais faire? Je vais la rétrécir. Je vais la rendre naine pour qu'elle soit à mon niveau d'aujourd'hui. Donc qu'est-ce que ça s'appelle en réalité? J'ai pris l'infini, la grandeur, et je l'ai réduite, condensée à quoi? Au niveau de ma petite cervelle à moi de l'homme. C'est ce qu'on appelle de la Avodah Zara. J'ai pris Dieu, et je l'ai réduit à mon petit niveau de compréhension. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je vais te dire maintenant, est-ce que tu veux faire ça? Tu dis non, si je ne comprends pas, je ne fais pas. Autrement dit, qui est ton Dieu? Ta capacité à comprendre. Et si ta capacité à comprendre ne se permet pas aujourd'hui et tu ne peux pas comprendre que tu es limité et tu ne crois pas en l'absolu parce que tu crois que ce que tu comprends, eh bien tu es foutu dans la même erreur que le premier homme est tombé, c'est-à-dire l'arbre de la connaissance humaine du bien et du mal. Et tu as raté juste au même moment l'arbre de la vie. T'as pas compris l'essentiel.
Explique encore, pourquoi c'est Avodah Zara?
Tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire Avodah Zara? C'est servir quelqu'un d'autre que cette grandeur infinie. En l'occurrence, qui tu vas servir? Ton petit cerveau, ta petite compréhension, ton cerveau à toi. Je ne ressens pas, donc je ne fais pas. Qui c'est ton Dieu? Ton ressenti. Je ne comprends pas, donc je ne fais pas. Qui est ton nouveau Dieu? Ta compréhension. Mais c'est pas ça. Vous comprenez ce qui se passe? Et là, je suis en train d'arriver tout doucement à la fabrication de ce qu'on appelle le veau d'or. Qu'est-ce que c'est en réalité le veau d'or? C'est une fabrication humaine, à l'échelle humaine, de ce qui était au départ divin. Donc tu as rendu Dieu, quoi? Un petit veau d'or. Tu en as fait un petit veau d'or, maintenant qui est palpable, touchable, visible, limité dans l'espace, limité dans le temps, donc à mon niveau. Donc je suis tranquille. Comment est-ce que je vais appeler ce veau d'or? La lumière. Comment je vais appeler Dieu? Le noir. Vous comprenez? Et c'est pour ça que dans la Kabbalah, il y a deux mondes, Yetzira et Bria. Je ne parle pas des autres. Bria c'est élevé, Yetzira c'est plus bas. Et dans Bria on dit Yosser, Or ou Boré, Rocher. Sans vouloir vous embrouiller, on associe le noir au monde le plus élevé et la lumière au monde inférieur. Pourquoi? Mais c'est la nature humaine. Tout ce qui est plus bas, qui est à ton niveau, qui est palpable, tu l'appelles lumière. Alors que c'est le plus grand noir. Et tout ce qui est réel, vrai, absolu, mais grand, il est tellement grand qu'il te dépasse, toi, tu l'appelles le noir. Voilà comment on juge les choses dans notre vie. Ce que je viens de vous dire, c'est du Hari HaKadosh. Moralité, quand on rentre en terre d'Israël et qu'on voit le côté le plus bas, on appelle ça quoi ? Le noir, alors que c'est la plus grande des lumières. Quand on sort en dehors d'Israël, c'est la plus grande des clipotes et on appelle ça la lumière. Tout est à l'envers. Donc les explorateurs n'ont vu sur la terre d'Israël que du noir, alors que c'est la source même de la lumière. Et où est-ce qu'ils ont vu la lumière ? À l'extérieur. Comment est-ce que les explorateurs ont appelé l'Égypte ? La terre où coule le lait et le miel. C'est madame, c'est marqué dans le verset. Tu nous as fait sortir de la terre où coule le lait et le miel pour nous faire mourir sur cette terre. Exactement l'inverse. Comprenez comment l'homme peut tomber dans toutes ces embrouilles par rapport à sa tête à lui. Et donc en réalité, on fait des compromis avec les valeurs de l'infini et on va les réduire à notre petit système de compréhension pour accélérer des processus. Les Chachamim vont aller très loin et vont nous dire dans le traité de Shabbat 88, vous savez à quoi ça ressemble ? À une femme qui est en train de se marier sous la choupa, il y a le mari juste à côté d'elle, il va pour lui donner la bague et elle est en train d'avoir un rapport avec un autre homme. Regardez jusqu'où vont les Chachamim, Chas v'Shalom. Et l'expression là-bas est terrible. Kala alouva, une kala méprisable, hamezana, qui devient une zona, une prostituée, betor rufata, dans sa rufa. Terrible. Qui c'est cette kala ? Israël. Dieu est en train de nous donner la grande lumière, c'est-à-dire la grande valeur. Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas aller en réalité penser qu'il y a un plaisir plus grand que celui-là alors qu'il est minable, momentané, limité, dégradé. Et c'est à ça que tu donnes la lumière. Rabotai, ça vous paraît loin ? C'est ce qu'on fait chaque jour dans notre vie. Akadosh Baruch Hu veut nous donner le meilleur et nous toujours en descend vers les choses minables. Pourquoi ? Encore une fois, statut de victime. Je ne mérite pas d'être heureux. Je ne mérite pas d'être heureuse. Donc tu ne sais plus recevoir des compliments. Donc à chaque fois qu'on te dit, tu te dis non. Eh bien mais non. Tu es belle mais non. Tu es intelligente mais non. Tu fais bien ça, non. Tu fais bien ça, non. À la fin on te dit, bon alors tu es un non complet. Okay. C'est la même chose. Je ne mérite pas d'être heureuse. Je ne mérite pas d'être bien. Et chaque fois que tu es bien et que c'est momentané, tellement tu es victime dans ton système que tu attends le mal par où il va venir. C'est trop bien pour être vrai. Donc j'attends le mal. Donc qu'est-ce que tu fais en attendant le mal ? Tu l'invites. Tu l'invites. C'est toi qui l'invites le mal. Parce que tu te dis, c'est pas possible que ce soit bien. Écoutez bien, c'est le système humain qui nous massacre dans tous les domaines. Et en réalité, c'est ça la faute du veau d'or. C'est pas seulement fabriquer un petit veau en or. Vous les prenez pour des débiles. Ils venaient de sortir d'Égypte. La Torah, elle est intelligente, elle vient nous enseigner, mais il faut l'étudier intelligemment. Si tu restes au premier niveau où Moïse reçoit la Torah en haut, et en haut, en bas, ils sont en train de faire un petit veau en or. Mais franchement, tu crois que c'est ça que la Torah vient nous raconter comme histoire ? Il faut comprendre ce que ça veut dire ce veau. Ce veau en hébreu s'appelle Egel. Vous savez ce que c'est un Egel ? Egel, c'est la matière encore malléable. Il y a une différence entre Egel et après quand il devient Ben Para, Chor. Il y a des évolutions. Egel, c'est la matière encore malléable. Tu as l'impression que tu peux tout faire avec cette matière. Et quand elle commence à te manger, elle devient en réalité plus forte que toi. Donc le Egel, c'est quoi ? En hébreu, un cercle. Igoul. Igoul. Le Hegel, c'est un grand zéro. Ça veut dire faire un Hegel, c'est refuser la direction divine, le Yachar, pour tomber dans un cercle que toi, tu as l'impression, parce que ton système, il est tellement bloqué que tu tournes autour de toi-même. C'est la même chose. C'est-à-dire que l'homme est incapable de sortir de son propre cercle. En français, on dit, il mord sa queue. Okay? Ils tourneront.
Victime des autres bourreaux de soi-même.
Exactement. Mais c'est lui. Et ça va très loin. Parce que, imaginez-vous que votre bourreau, c'est la peur. Donc vous êtes victime de la peur. Si tu es victime de la peur et que ton bourreau c'est la peur, qu'est-ce que tu es censé faire tous les jours? Apporter un sacrifice au Dieu qui s'appelle la peur. Donc tous les jours que la peur vient chez toi, tu lui dis voilà mon offrande. Je t'offre un quart d'heure d'angoisse et de peur par jour. Vous rigolez? Vous rigolez? C'est terrible. C'est terrible. Ça veut dire que lui, il attend que tu lui donnes son corban. C'est comme ça que tu le sers. Donc tu es obligé de servir la peur. Et après, quand tu vas faire des psychothérapies chez un docteur, chez un médecin, chez un thérapeute, il va te dire, mais tu es rentré dans un système. Quand il se passe une lampe jaune, elle te fait une réaction directement la même. Et tu ne sais plus changer ta réaction. Donc ta réaction, ici en l'occurrence, c'est la peur. Mais il y a le dieu de l'angoisse. Il y a le dieu de... Et donc vous devez donner des offrandes toute la journée à tous ces petits dieux. Qui ne sont pas l'absolu, la liberté. Ce sont des dieux inventés par toi, par ton système de réflexion, qui te paralysent toute ta vie. Et qui te font tourner en rond. Voilà ce que c'est que la faute du veau d'or. Une des façons de voir la faute du veau d'or. Et donc moralité, tu ne peux plus gérer des vrais problèmes dans ta vie, parce que tu tournes autour de ton propre système. Je vous rappelle toujours ce qui m'a toujours impressionné. Pour étudier, il faut pouvoir sortir. C'est Oulmad. Ceux qui ne sortent pas, ne peuvent pas étudier. Sortir de quoi? Sortir de ton propre système à toi. Si tu n'es pas souple, tu ne peux pas évoluer. Si tu ne sors pas de ton système de réflexion, tu ne peux pas évoluer. Tu ne peux pas venir à un cours avec ton cerveau bloqué, et tout ce qui rentre dans ton tiroir, tu l'acceptes, tout ce qui ne rentre pas, parce que tu n'as pas l'habitude, tu le repousses. Ce n'est pas ça étudier la Torah Rabotai. Tu dois être vrai, tu dois être sensible, tu dois te dire, écoute, ce n'est pas ma chita, mais ce qu'il dit, c'est du MS. Sinon, tu ne sers plus Dieu, tu sers une chita. Et il y a des gens qui servent des chitos. C'est-à-dire des façons de voir.
Des quoi, des méthodes.
Des méthodes d'études. Là, un, il sert une chita comme ça parce qu'il a étudié dans une chita comme ça. Il ne sert plus Dieu. Il sert la chita. C'est de la Avodah Zara dans le déguisement de la Torah. Ah, excusez-moi. Je nuance. C'est ce que je suis en train de dire. Si on sert à Kadosh Baruch Hu, alors c'est possible. Mais si je sers la Shita, je ne sers plus à Kadosh Baruch Hu. C'est comme si servir les mitzvot. Est-ce que vous servez les mitzvot? Je parle ici d'une manière générale. Est-ce que je sers les mitzvot ou est-ce que je sers l'éternel? C'est la même chose. Encore une fois, je ne parle pas de ça, mais doit aussi chacun sa chita. Regardez, mon pouce ne fonctionne même pas comme les autres doigts, ils ont tous leur chita, et c'est l'ensemble qui me permet de lever ce stylo. Mais aucun de ces doigts ne sert lui-même, il sert Yoel. Il sert l'ensemble. Et c'est ça notre problème à nous. C'est que chacun sert son petit degré à lui. Il ne comprend pas l'entité globale. Et ça, c'est la maladie, parce que si j'exagère ça, c'est comme une cellule qui arrête de servir l'ensemble organique. Ça s'appelle le cancer. Je vais vous expliquer,
Au début du cours, vous avez dit du coup, tu disais que l'objectif, c'est de nous tirer. C'est
de nous élever.
Or, la génération qui avait le mot d'or, ils ont été tués.
Quel
figure, puisqu'ils sont morts.
D'accord.
Ils ont resté. Quel figure ils ont eu?
D'accord. C'est nous. Et pas ceux qui ont vécu la chose. La Torah, elle ne vient pas te raconter une histoire qui s'est arrêtée à la génération en question qui a vécu l'histoire. On appelle ça Nevoa, chez Utrecha, les Dorot, Nirseba. C'est le Yalkut Shimoni. C'est-à-dire la Torah est une prophétie. Elle est en train de te parler à toi et à moi maintenant. Donc voilà le travail. Si aujourd'hui je comprends le secret, eh bien normalement, je ne devrais pas jeûner dimanche prochain.
Ceux qui ont vu la génération mourir, c'est la peur, qui vont faire vivre la peur.
Non, c'est ça le lien. C'est pour ça que je suis là, pour essayer de changer le lien. Et de vous dire, dès le début de mon cours, quelle était la chose essentielle de cette journée du 17 Tammuz. Pas de tomber par terre et de commencer à jeûner, de recevoir les tables, les premières tables, d'être capable de recevoir le grand. Mais toi, comme tu as peur du grand, tu as réduit la Torah à un petit niveau qui te console. Et c'est ça le problème. C'est qu'on a peur de grandir dans tous les domaines. Tous les gens qui ne réussissent pas, c'est parce qu'ils ont peur de grandir.
C'est très humain, mais c'est pas bien.
C'est ça le lien. Et même dans la Torah, c'est pareil. On a peur d'être grand. Quand vous entendez dans le mois de Elul, qu'on vous dit, oui, cette année, je vais faire tchouva sur ça et sur ça. Moi, je ne dis pas ça à mes élèves. Je leur dis, mes élèves, je vous aime très fort. La seule tchouva que je vous demande, que je me demande à faire, c'est de faire tchouva sur ma petitesse d'esprit. D'être un petit peu plus grand cette année, un petit peu plus large. Et d'arrêter de vouloir me contenter de petits morceaux de petite Torah entre Mincha et Arvit. Je veux les premières tables. Je ne veux plus me suffire des deuxièmes tables. Pourquoi Dieu m'a donné les premières tables? C'est qu'il voulait qu'elles soient ici. Alors certes, elles se sont cassées. Mais ce n'est pas grave. Ça me pousse à moi, durant les générations, à les revouloir, à les languir. Mais si je les ai oubliées complètement, qui se rappelle ici des premières tables? Personne. C'est ça le malheur. Je voulais te donner ce stylo. Tu l'as brisé, je t'ai donné un feutre à la place. Et tu t'es habitué au feutre. Non! Papa, je veux la première chose que tu voulais me donner. Pourquoi je me contente de ça? Il nous a quand même donné. Non, c'est pas les mêmes. Pas du tout. Deuxième loukros, c'est pas du tout les premières loukros. Aucun rapport. D'accord? Le deuxième loukros, c'est un niveau humain. Premier loukros, c'est un niveau divin. Aucun rapport, cela. Ce qu'on appelle etzachaim, et Sada. Aucun rapport. Et le problème, encore une fois, c'est qu'on prend le Bédiavad. C'est comme ça, c'est pas grave. La même chose au niveau de l'exil. On s'est sorti du jardin d'Éden. Le premier homme a été renvoyé du jardin, que je sache. Est-ce que vous avez langui ce retour au jardin? Non, c'est pas grave, il m'a mis dehors. Il investit dans le dehors. T'as oublié complètement que tu étais là-bas, que tu dois languir. Si tu y étais, c'est qu'il voulait que tu sois là-bas. Maintenant, il t'a jeté. Ne t'habitue pas à ce deuxième degré qui est au niveau du ras des pâquerettes par rapport au premier degré. Et toute notre vie, c'est comme ça. Tu jettes un enfant de la classe parce qu'il dérange. Au lieu de taper 5 minutes après de rentrer en cours, il va là-bas, il s'est trouvé un terrain de basket, il joue. Il a fait son kiff. Mais c'est la même chose. Eh bien, toute la vie, on fait pareil. Parce qu'on ne comprend pas cette éducation. Et c'est ça qu'il faut changer. Il faut changer tout ce système. Je vais terminer le cours en vous expliquant ce que la Mishnah nous dit. Il s'est passé 5 choses dans l'histoire de ce jour-là, du 17 Tammuz. Pas dans la même année. Durant les générations, il s'est passé 5 choses. Première des choses, nous dit la Mishnah, les tables se sont brisées. C'est ce que je viens de vous dire. Deuxième des choses de ce qui s'est passé dans l'histoire, c'est qu'une fois que les tables se sont brisées, on a annulé à un moment donné le tamid, c'est-à-dire un korban un sacrifice qu'on faisait journellement, tous les matins et tous les après-midi. Apparemment, bon, un récit de nos sages. Après, un jour, on nous a brisé les murs de la ville de Jérusalem, à une certaine génération. C'est le début de la brèche dans la ville de Jérusalem. Après, on a brûlé la Torah. Après, on a mis une avoda zara au temple. Voilà les cinq choses. D'après vous, c'est anodin. Alors, moi, j'ai étudié cette Mishnah depuis que je suis enfant. Mais on me l'a fait étudier comme un récit de cinq choses qui se sont passées. Ça suffit. Réfléchis. Est-ce qu'il y a une évolution? Bien sûr qu'il y a une évolution. C'est pour ça que les sages nous mettent ces choses-là dans cet ordre-là. Ça veut dire qu'au départ, tu n'es pas capable de recevoir les tables. Qu'est-ce que tu fais? Elles se brisent, tu les casses. Une fois que c'est stable, que ta vraie Torah initiale a été brisée, qu'est-ce qui se passe? Boutal Atamid, deuxième degré. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est Boutal Atamid? Tu n'as plus de régularité. Tamid veut dire tout le temps. Donc tu as fermé ta régularité, tu n'as plus d'ordre divin. Tu es dans un désordre total. Il n'y a plus de continuité, il n'y a plus d'éternité. Tu es limité dans ton petit monde à toi, parce que tu n'as pas voulu l'éternité, tu préfères une petite Torah. Donc le Tamid, ce qui représente le Tamid le toujours, n'existe plus chez toi. Il n'y a plus de toujours. À tel point que vous êtes persuadés tous que la mort est inévitable. Voilà, ça veut dire qu'on a réussi à vous rendre victime. Alors que la Torah, comment est-ce qu'elle appelle la mort? Kherpa, une honte. Mais aujourd'hui, tu demandes à n'importe qui, il te dit, mais c'est normal de mourir. C'est pas normal de mourir. Encore une fois, on t'a fait descendre de la vie vers la mort, et toi, au lieu de revouloir la vie, qu'est-ce que tu dis? Ben, on meurt tous, c'est pas grave. Mais Vada, il kherpa. C'est marqué comme ça. Un jour, il va falloir enlever cette honte du monde. Parce que si la mort est le grand gagnant de ce monde, elle est plus forte que qui? Que Dieu lui-même. Est-ce qu'il y a plus grande avodah zara que ça? La mort a gagné à Kadosh Baruch Hu. Donc même Dieu ne peut rien contre la mort. C'est ça que ça veut dire. On appelle ça du Chilul Hashem. Une profanation. Et qu'est-ce qu'on fait quand on profane Dieu? Il faut vite le sanctifier. Comment on dit sanctifier? Kiddush Hashem. Qu'est-ce qu'on fait? Un kaddish. C'est pour ça qu'on fait le kaddish. Pour sanctifier la honte qu'on vient de faire à Dieu parce qu'il y a un mort. La folie. Mais ça, il faut encore un cours à part entière. Parce que vous êtes tellement persuadés qu'il faut mourir, que même ce que je suis en train de vous dire maintenant, il y a des sourires. Il est bien gentil, mais... On ne veut pas, c'est style, je veux pas, laissez-moi croire, je veux mourir.
C'est un chidouche, ça, c'est nouveau.
C'est un chidouche. Ça vient de toute l'éducation dans tous les domaines, toute notre vie c'est comme ça. Encore une fois, il faut à un moment donné grandir. Il faut être capable de casser pour se reconstruire. Sinon, tu es victime de quoi? Encore une fois, on m'a éduqué. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Les pauvres, c'est des assassins. Qu'est-ce que tu veux? Ils vivent dans des quartiers pourris. Non, tout est autorisé alors. Comme il n'a pas eu ça, il n'a pas eu ça. C'est un petit enfant, tu ne peux pas. C'est pas grave. Il peut brûler. Il peut envoyer des cerfs-volants plein de trucs. C'est pas grave, les pauvres. Et tout est comme ça, dans les quartiers pourris, dans la racaille, dans les machins. Tout le monde, alors il n'y a plus rien. Tu ne fais aucune correction dans ce monde. Tu fais descendre le monde, et tu t'adaptes à toute cette pourriture.
Mais c'est pas Dieu qui a créé l'ange de la mort, par exemple.
Oui, justement. S'il l'a créé, ça veut dire qu'il le domine. C'est exactement ce que je viens de dire. Et donc il ne peut pas faire ce qu'il veut, cet ange.
Non.
Ah, et après. Donc ça veut dire que... Non, pas du tout. C'est pas comme ça que ça marche. c'est qu'il a créé un potentiel. Qu'est-ce que c'est que la mort en réalité? Non, c'est une non-vie. Ça n'existe pas. C'est comme le noir. Est-ce que le noir existe? Non. C'est à éteindre la lumière. C'est la même chose. Donc en réalité, si je veux te dire d'annuler la mort, qu'est-ce que je te dis? Rajoute de la vie. Et comment est-ce qu'on rajoute de la vie? Eh bien, c'est d'abord par l'étude de la compréhension de ce qu'on est en train de faire ici. Si tu n'étudies pas ça, tu vas vers la mort automatiquement. Alors tu deviens victime, tu deviens malheureux, tu deviens dépressif, tu deviens éteint, tu ne bouges plus dans tous les sens du terme. Jusqu'au moment où la grande maison que tu avais, ça devient un mètre carré. Deux pieds sous terre. Fini.
Excusez-moi, mais le roi David s'est battu contre ça.
Il a fait.
Jusqu'à la fin.
Il a fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est possible. S'il s'est battu, il a fait. C'est possible. Ça veut dire que le monde n'était pas encore prêt. Mais le fait que le roi David, qui est le roi d'Israël, se bat, c'est pour nous enseigner à nous quoi? Va-toi et tu gagneras à la fin. C'est tout. Non, même ce bon-là, c'est un bon... Non, on n'essaye pas. On n'essaye pas. Essayer, c'est déjà se tromper. On réussit. Il faut arrêter de dire je vais essayer. Quand tu dis je vais essayer, tu es déjà mort. Naase venasliya. L'onne naase. Ça n'existe pas, ça. Donc il faut être convaincu de la chose. Une fois que tu as perdu ce degré, qu'il n'y a plus de stabilité divine, les murailles de la ville se sont détruites. Qu'est-ce que c'est les murailles de la ville? C'est toutes tes murs à toi de protection, vous comprenez? Regardez l'évolution, c'est extraordinaire l'intelligence de nos sages. C'est-à-dire que tu n'as plus de protection autour de toi, alors ça s'appelle les murailles de Jérusalem. Mais aujourd'hui, quand vous jeûnez parce que les murailles ont été trouées le 17 Tammuz, il ne faut pas parler seulement des murailles de la ville, c'est les murailles de ton être. Tu n'as plus de protection, tu ne sais même plus. N'importe qui peut venir avec n'importe quelle idée que pourrir la vie. Tu n'as même plus d'assurance. Tu ne sais même plus où tu es. Ton identité est tellement loin de toi-même que n'importe qui peut venir te persuader d'autre chose. C'est terrible. Alors qu'est-ce qui se passe? Troisième élément, quatrième élément, on brûle ta Torah. Voilà le fait d'avoir brûlé la Torah. Et une fois qu'on t'a brûlé la Torah, qui c'est qui va venir être le patron de ton être? Une avodazara en plein milieu de ton temple. Selem Barichal. Comprenez l'évolution? Ah, si tu lis cette Mishnah juste comme cinq catastrophes qui se sont passées le 17 Tammuz, eh bien ces catastrophes, elles sont là-bas. Moi, je suis ici, je suis tranquille. Ça y est, c'est passé, mais pas du tout. Si tu prends ces cinq éléments et que tu les intègres et que tu te dis, mais attends, mais c'est moi là. D'abord, je me suis cassé. Après, j'ai perdu mon degré d'éternité. Après, on m'a cassé ma muraille, j'ai plus de protection. Après, la Torah qui est en moi, elle est en train de brûler. Et après, j'ai une avod hazara en plein milieu de moi-même. Ça veut dire que je ne peux même plus servir Dieu parce qu'en réalité, je sers n'importe qui passe. Un journaliste qui va me dire n'importe quelle ânerie, je vais commencer à dire, ben oui, il a raison. C'est tout. Donc, il y a une dégradation collective de tout ça. Et je termine réellement ce cours parce que c'est énorme, énorme, énorme ce que j'avais à dire, mais comme c'est le temps, dites-lui que je ne suis pas là, c'est bon. Pourquoi il y avait un espace, et je termine vraiment avec ça, entre les deux poignets, où Dieu, entre guillemets, tiens, vous comprenez que c'est une image, Dieu n'a pas de main, les tables, et que Moïse tient les tables, et qu'au milieu il y a deux poignées de vie. Pourquoi d'après vous?
Deux poignées de vie.
Deux poignées de vie deux. Il y a deux poignées que Dieu tient, deux poignées que Moïse tient, et deux poignées où il n'y a personne qui tient. Il y a Femeod. Si les mains de Akadosh Baruch Hu touchaient les mains de Moshe, il n'y aurait pas eu de choix. Ce serait en réalité le monde manichéen, ou blanc ou noir.
Il n'y a pas d'initiative.
Il n'y a rien du tout. C'est mort. Le fait que Dieu laisse deux espaces entre ses mains et les mains de l'homme, c'est ce qui laisse à l'homme la possibilité, ce silence, ce moment de réflexion. C'est ce que je vous laisse après le cours. le silence d'après le cours, les quelques minutes de silence sont plus importantes que le cours. C'est là où tu as le gain. C'est incroyable parce que l'espace en hébreu se dit reva, qui veut dire aussi un gain. L'arvia. C'est incroyable. Ça veut dire que c'est là où tu gagnes quelque chose. C'est dans le silence d'après le concert. C'est dans le silence d'après le cours. C'est dans le silence d'après la musique. Si tu n'as pas cette intégration de la chose, tu ne peux pas. Donc je me souhaite à tous d'utiliser ces moments de silence-là pour nous reconstruire. Toda Rabba. Je l'ai dit.
Moi, merci beaucoup. Dédicacé. Ouais. Toda Rabba. Pour la mitzvah. Ça me touche beaucoup, vraiment.
Je suis ébloui. Un match qui a un don.
Grâce à ces